Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Parmi les grandes figures féminines de la Bible, Marie-Madeleine est sans doute une des plus énigmatiques et fascinantes qui soit. Marie de Magdala n'apparaît que dans les évangiles où elle fait partie des plus proches disciples de Jésus. Présente au pied de la croix, elle sera le premier témoin de la résurrection auprès des apôtres, et les pères de l'Église reconnaîtront en elle l'apôtresse des apôtres. La tradition chrétienne a vu aussi en elle la figure de la pécheresse repentie et pardonnée. Elle a également localisé la fin de sa vie à la Sainte-Baume en Provence. Marie-Madeleine continue aujourd'hui d'inspirer la littérature et le cinéma, avec le film Da Vinci Code, tiré d'un roman de Dan Brown, ou le film Marie-Madeleine qui sort ces jours-ci sur les écrans. Mais en ce temps de Pâques, c'est dans le jardin du tombeau de Jésus que nous avons choisi de la rejoindre, au petit matin, en relisant l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 1 à 18, dans la traduction liturgique de 2013. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Ensuite, les disciples retournèrent chez eux. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabbouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur ». Et elle raconta « ce qu'il lui avait dit.
«
Les apparitions du ressuscité sont communes aux quatre évangiles, mais chaque récit a sa tonalité propre. Pourriez-vous, Père Alain, nous resituer ce passage dans le déroulement narratif de l'évangile de Jean ? Quelles sont ses éventuelles spécificités par rapport aux autres évangiles ?
Oui, vous avez raison de souligner les caractères propres de l'évangile de Jean. Pour ce qui nous touche maintenant, nous avons devant nous une figure assez étonnante, Marie de Magdala, vous l'avez dit, présente dans les autres évangiles, mais avec une tonalité très variée, très différente dans saint Jean. Le cardinal Bérulle, qui a écrit un traité sur Marie de Madeleine, disait « Elle commence là où nous, à peine, nous finissons ». Une façon de dire « Elle est dans la perfection ». Et vous remarquez, c'est vrai que dans les autres évangiles synoptiques, les femmes viennent aussi au tombeau. On est capable de se dire qu'il y avait d'autres femmes avec elle. Mais Jean aime bien sélectionner une figure pour lui donner toute la signification. Vous avez remarqué, en lisant le texte, vous avez dit un passage, nous ne savons pas où on l'a mis. Nous ne savons pas. Ça veut dire que Jean ne cherche pas à nous cacher qu'il y avait plusieurs femmes. Mais lui, il va focaliser son travail, c'est vraiment un travail méticuleux, sur une seule figure, donc Marie de Magdala, cette femme donc particulière pour plusieurs raisons que nous avons l'occasion de partager ensemble maintenant.
Alors le récit met en scène quatre personnages. Marie de Magdala, Pierre, l'autre disciple est Jésus. Qui est l'autre disciple ? Qu'est-ce qui légitime la présence de Marie de Magdala et le rôle exceptionnel qu'elle joue ?
Alors, commençons par Marie de Magdala, puisqu'on verra après pour l'autre disciple. Marie de Magdala, je vous l'ai dit, elle fait partie des disciples qui viennent au tombeau. Mais qu'est-ce qui est particulier pour Marie de Magdala et qui va connoter totalement la signification du récit, c'est qu'à la différence des synoptiques, dans les synoptiques, les femmes viennent pour accomplir le geste d'onction que le défunt doit recevoir. Ils ont donc une mission, ils ont un rôle particulier, très concret, que les femmes faisaient quand il y avait un mort. Mais Marie de Magdala, dans l'évangile de Jean, il n'y a rien à faire. Ça a été fait par Joseph d'Arimathie et par Nicodème. Donc l'onction des morts est déjà faite. Elle vient, elle n'a aucune raison pratique, objective de venir, si ce n'est sa passion pour cet homme qu'elle a aimé et qu'elle a envie de revoir dans son corps défunt. Mais c'est son seul objectif, c'est parce qu'elle aime qu'elle vient pour accomplir le deuil, finalement, dans ce geste où elle va chercher le corps du Christ sans le trouver. Et c'est là que le récit commence. Vous avez remarqué la beauté aussi du texte, à la fois de petit matin et la nuit qui est tombée. C'est-à-dire, on est dans ce passage à moitié jour, à moitié nuit, qui va déboucher, bien sûr, sur la clarté de la résurrection, mais ça ne sera qu'à la fin du récit.
Alors, l'autre disciple, c'est qui ?
Alors, c'est vrai, vous avez souligné, ils sont trois personnages, vous avez souligné. Bon, Pierre, on sait qui c'est. Hein. L'autre disciple, c'est le disciple que Jésus aimait, ça ne fait aucun doute. C'est le même que celui que nous avons découvert au chapitre 13, celui qui se penche sur la poitrine de Jésus, le préféré de Jésus, celui que Jésus a mis à ses côtés. On dit souvent dans les traditions anciennes que lorsqu'on faisait un repas d'adieu, et c'est ce qui se passe au dernier repas de Jésus. Celui qui était le plus proche, c'était celui qui représentait le mieux l'héritage du maître qui allait partir. Et donc c'est lui, l'autre disciple, ou bien le disciple que Jésus aimait. Vous avez remarqué, vous avez souligné dans votre lecture, ils courent, tous les deux. L'un va plus vite que l'autre. Vous devinez bien sûr que celui qui court plus vite, c'est le disciple que Jésus aimait. Alors on ne peut pas ne pas s'empêcher de se dire... Pourquoi court-il plus vite ? Est-ce que c'est parce qu'il est plus jeune ? Bon, pourquoi pas ? Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre raison plus profonde ? C'est-à-dire, il est habité par le charisme. Le charisme, ça vole, on pourrait dire. Tandis que Pierre, il a déjà les chaussures lourdes des institutions qu'il va traîner durant sa mission d'église. Et donc, il court, mais pas aussi vite. Et puis peut-être court-il aussi avec une certaine tristesse profonde. J'ai souvent pensé à ça. Je ne sais pas si ça vous a frappé en lisant ce texte. Est-ce que vous vous imaginez, quand Pierre court au tombeau, il va vers quoi? Il va vers un homme mort, un défunt, un cadavre. Est-ce que vous vous imaginez que si le Christ n'était pas ressuscité, Pierre retrouverait son maître après l'avoir trahi et sur une trahison? C'est-à-dire, il l'a connu, bien sûr, dans sa vie publique, mais le dernier acte qu'il a eu face à lui, c'est de le trahir. Vous imaginez, peut-être ça aussi qui l'empêche de courir très vite. Cette tristesse qui doit l'accompagner en disant « Je l'ai trahi, ça a été mon dernier geste, c'est pathétique. » Alors que l'autre court plus vite, c'est le disciple que Jésus aimait.
Il a peut-être des motivations plus proches que de celles de Marie de Magdala. Dans sa,
elle court vite
dans sa
course. Aussi.
Elle court vite aussi, mais parce qu'ils veulent rejoindre le maître, finalement.
Mais elle, évidemment, c'est autre chose, on va y venir. Elle, c'est l'amour absolu qu'elle a pour Jésus. Et c'est ça qui fait aussi sa place, et la place particulière. Est-ce que vous avez remarqué, peut-être on ne le souligne pas assez, que le Marie de Magdala, c'est la seule des disciples qui soit à la fois au pied de la croix et à la résurrection. Ça veut dire qu'elle a un rôle majeur dans la transmission du mystère du salut. Elle est là pour attester qu'il est véritablement mort. Elle a assisté avec la mère de Jésus, avec le disciple que Jésus aimait. Et puis, elle est la seule qui est témoin de la résurrection. Donc, elle connaît les deux éléments fondateurs. Le christianisme se résume en quelque sorte à ces deux séquences. La mort du Christ et sa résurrection. Et qui en est le témoin? Marie de Magdala.
Le premier témoin.
Le premier témoin est fondamental, c'est-à-dire, vous voyez, quand on évoque le sillage de la transmission depuis le premier moment jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous, c'est un sillage qui vient de Marie de Magdala. C'est-à-dire, elle est celle qui transmet le message et qui dit à chacun, à ton tour, tu vas le transmettre. Toi, tu vas le transmettre à tes enfants. Tes enfants vont le transmettre à leurs petits-enfants. C'est la transmission qui commence avec Marie de Magdala. Elle est celle qui est au cœur. Et ça pourrait expliquer, même si ce n'est pas notre objet aujourd'hui, le péché de Thomas. Thomas n'a pas cru Marie de Magdala. Et c'est un péché grave qu'il a fait là, parce qu'il a brisé le chaînon qui commence au départ en ne croyant pas cette femme. Donc, vous voyez, c'est assez important, c'est une femme unique. C'est pour ça que je vous citais la phrase de Bérulle, elle commence là où nous, à peine, nous finissons. Elle est dans la perfection. Alors, ça ne met pas en question ce que vous avez dit tout à l'heure, qui apparaît dans les synoptiques, c'est-à-dire la pécheresse, celle qui a connu un destin parfois avec le péché. Mais dans Jean, non. Jean la met dès le départ dans la perfection.
Et la structure de son texte le dit, puisqu'il y a deux fragments où elle est mentionnée, le premier fragment et le troisième. Hein. On a une structure en trois morceaux, la visite de Marie de Magdala seule au tombeau, ensuite la course des deux disciples jusqu'au tombeau, et ensuite le retour, on revient sur Marie de Magdala au tombeau avec sa vision du ressuscité.
Oui.
Elle est vraiment valorisée et quelque part, elle met un petit peu au second plan les autres parce que Pierre et l'autre disciple sont allés au tombeau. Il y en a un qui est rentré, l'autre qui n'est pas rentré. Celui qui n'est pas rentré, il a cru, il a vu, il a cru. Enfin, sent qu'on n'arrive pas à des conclusions très, très, très précises. Elle, par contre, elle se pose des questions. Tout de suite, elle dit, mais pourquoi il n'y a pas la pierre? Elle n'est même pas allée plus loin, elle n'est même pas rentrée.
Vous avez remarqué que, et vous le soulignez, elle est au début et elle est aussi à la fin.
Voilà.
C'est-à-dire, d'abord, au plan, seul plan narratif. Parfois, on passe trop vite sur la narrativité, sur la technique d'écriture. N'oublions pas que le monde biblique est un monde qui fonctionne avec l'écoute. C'est-à-dire, on n'a pas de livre.
Oralement.
On entend. Et donc, au début, on entend Marie de Magdala. Et on l'entend à la fin. Vous êtes assez familier avec les évangiles pour savoir qu'on appelle ça une inclusion. C'est-à-dire, on commence et on finit de la même manière, de telle sorte que l'auditeur, il est satisfait parce qu'il sait que c'est fini par la répétition de ce qui était dit au début. Donc, ça aussi, c'est très beau narrativement. Mais bien sûr, après, le contenu, c'est surtout la rencontre. Alors, vous avez bien fait de souligner, il vit et il crut. C'est magnifique, hein ? Il voit quelque chose, mais il croit autre chose, c'est-à-dire il n'y a pas équivalence entre ce qu'il voit et ce qu'il croit. Alors que Pierre, il est banal, il regarde.
On ne sait pas ce qu'il pense.
Il ne croit pas. Non, je pense qu'il ne croit pas. Puisqu'on dit de l'autre qu'il vit et il crut, ça veut dire que...
Sous-entendu, l'autre ne croit pas.
L'autre ne croit pas, ouais. Voilà.
Alors, ensuite, on revient sur Marie-Madeleine. Près du tombeau, dehors, tout en pleurs. Donc, elle n'a pas encore fait le saut. Elle sent qu'il est en train de se passer quelque chose d'inouï, probablement. Mais elle est en pleurs. Elle n'a pas encore pu passer le cap. Et elle se penche vers le tombeau. Alors qu'avant, elle n'était pas rentrée. C'est le premier moment où elle va regarder véritablement ce qu'il y a à l'intérieur. Et elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, exactement à l'endroit où était posé Jésus. Et il lui parle... « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Et tout de suite, elle revient à son obsession. « On a enlevé le corps du Seigneur, qu'est-ce qu'on en a fait ? Je ne sais pas où on l'a déposé. » Et elle se retourne, et alors le texte est étonnant, parce qu'elle aperçoit Jésus, puis après, elle ne sait pas que c'est Jésus. C'est une manière de dire les choses qui est un peu étrange. Et à ce moment-là, Jésus se met à parler avec elle. « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle le prend pour le jardinier. Alors ça, c'est incroyable. Et puis alors, le fait que ça se passe dans un jardin, c'est quand même assez évocateur, Père Alain.
Alors on peut d'abord évoquer les deux jardins, bien sûr. Le jardin d'Éden, où le péché de l'homme va toucher toute l'humanité jusqu'à nous aujourd'hui. Et puis le jardin dans lequel Jésus a marqué sa fidélité au Père et qui fait un parallélisme, en fond, on pourrait dire, avec le premier Jésus. Alors, c'est vrai que la séquence entre Jésus et Marie de Magdala est magnifique. C'est-à-dire, vous avez remarqué, elle bouge beaucoup, elle se retourne. On ne sait même plus, si vous regardez le texte, on a cherché, nous, les exégètes, à savoir comment elle était orientée. Elle se retourne à plusieurs reprises, ce qui fait qu'on ne sait plus vers où elle se retourne. Mais elle se retourne, et c'est là que ça devient majeur, elle se retourne vers celui qu'elle prend encore pour le jardinier et qu'elle ne peut pas reconnaître. Parce que c'est vrai que la résurrection, c'est un saut. On n'est plus dans la réalité humaine, on est dans une autre réalité. Donc elle ne peut pas le reconnaître, comme les disciples d'Emmaüs ne reconnaissent pas Jésus sur le chemin. C'est-à-dire, on ne peut pas reconnaître celui qui est entré dans un autre monde. Mais en même temps, elle le prend pour quelqu'un qui n'a rien à voir au fond avec le mystère de Jésus, comme le jardinier, et ce n'est que par sa parole que, quand il l'appelle par son nom, Myriam. Et à ce moment-là, tout change et se met en route au fond une compagnie, une rencontre, quelque chose de très beau entre Jésus et cette femme qu'il a aimée énormément et tout à coup qu'il le voit sous ses yeux, non plus identique puisqu'elle le prend pour un jardinier, mais comme étant reconnaissable uniquement par sa parole et par sa voix.
Voilà, c'est la parole qui est au cœur de cette reconnaissance finalement.
Et le seul mot, Myriam. C'est-à-dire, c'est tout à coup la fraternité aussi, c'est tout à coup le cheminement dans un autre monde. C'est l'Église, on pourrait presque dire, c'est l'Église qui commence là. L'Église commence avec Marie de Magdala, celle qui était au pied de la croix avec sa mère, et celle qui est au pied de la croix au moment de la résurrection. C'est total, c'est plein. Et donc, quelque chose s'ouvre, hein, et elle va devenir, au fond, une figure, on pourrait dire, fondamentale. Et je vous pose juste une petite question, on pourra peut-être la reprendre avant de finir. Comment se fait-il que Marie de Magdala ait eu si peu de place dans l'Église primitive ? On pourrait peut-être y revenir après.
C'est d'autant plus étonnant que Jésus, une fois que la reconnaissance est faite, il lui dit « Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père ». Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté, etc. C'est-à-dire qu'il l'envoie en mission, elle, pour annoncer aux apôtres, rien moins que les apôtres, qu'il est ressuscité. C'est-à-dire que c'est de là que vient cette fameuse tradition de l'apôtre des apôtres ou de l'apôtresse des apôtres. Mmh. Elle est la première des apôtres, c'est la première qui annonce la résurrection. Et d'ailleurs, je me souviens, il y a 2 ans, dans une célébration liturgique dans une paroisse, on a mis ça en avant, justement, cette annonce par cette femme.
Alors, la phrase que Jésus lui dit, qui a parfois donné naissance à des malentendus, « Ne me touche pas ».
Oui, « noli tangere ».
Alors, en hébreu, c'est pas « ne me touche pas », mais « cesse de me toucher ». C'est-à-dire, il faut s'imaginer, Marie-Madeleine, avec les mains autour des pieds de Jésus, arrête de me toucher, c'est-à-dire, laisse-moi partir. Car le temps a changé. Ce n'est plus le temps de la présence physique, et vous avez raison d'avoir souligné « va vers mes frères ». C'est-à-dire, c'est la mission qui commence, une mission qui ouvre le chemin de l'Église. Et c'est pour ça que c'est important, cette mission. Elle est la première en chemin. Vous avez dit, elle est celle qui est déjà dans la perfection, et c'est elle qui ouvre le chemin de la foi. Elle va dire aux disciples, les disciples vont le dire aux autres. C'est pour ça que le péché de Thomas est grave. Il n'a pas cru. Or, la foi commence avec Marie de Magdala. Et donc, pour nous, c'est vraiment une figure, et vous avez raison de souligner son importance, c'est celle qui, dans certaines églises, à Montpellier en particulier, elle a été représentée en train de prêcher. C'est pour ça que vous évoquiez l'apôtresse, parce qu'elle est celle qui est la première à prêcher le Christ ressuscité et l'annoncer aux autres apôtres.
Et c'est vrai que dans l'église d'aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose à méditer. C'est une femme qui a été la première apôtre de la résurrection.
On a mis du temps à s'en rendre compte. Parfois, j'en veux un petit peu à saint Paul, quand il fait la liste de tous ceux qui ont vu le Christ. 500 frères, certains sont encore vivants, dit-il. Mais pourquoi ne nomme-t-il pas Marie de Magdala, alors qu'elle est la première et celle par qui, au fond, le cheminement a commencé? Ça nous dit aussi la place négative des femmes dans la société ancienne.
Voilà. Eh bien, nous resterons sur cette magnifique image, cette figure de Marie-Madeleine qui fascine beaucoup de gens, et on ira certainement voir le film qui va sortir ces jours-ci, j'imagine, voir ce qu'on peut en dire encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Père Alain Marchadour, de nous avoir aidé à redécouvrir ce texte magnifique, surtout dans cette période de Pâques. Merci à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.